Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Église propose à notre méditation ce jour terrible qui viendra à la fin des temps, le jour du jugement dernier. Considérons donc dans leur ordre chronologique les diverses étapes de cet événement épouvantable. Il y aura d'abord des signes précurseurs. Il faut d'abord que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Alors en fait, l'Évangile a déjà été prêché dans le monde entier dès les temps apostoliques. Mais évidemment, dans plusieurs régions, cet évangile est tombé dans l'oubli. Donc cette prédication dans le monde entier doit être renouvelée à chaque époque, avec plus d'intensité. Et à la fin du monde, cette connaissance de Jésus et de son Église sera vraiment universelle. Avec les moyens de communication que nous connaissons aujourd'hui et qui sont de plus en plus perfectionnés, nous comprenons mieux comment cela pourra se faire. Mais ensuite, il faut une apostasie générale, un rejet général de Jésus-Christ. Jésus reviendra à une époque où, malgré cette connaissance générale de son évangile dans le monde, les États et les structures sociales l'auront sciemment rejeté. Ce sera le comble de la culpabilité. Et c'est alors que Dieu permettra que l'Antichrist vienne séduire toutes les nations apostates et les réunisse dans sa folle entreprise d'organiser le genre humain tout entier contre Dieu et contre sa loi pour se faire adorer lui-même à la place de Dieu. Et enfin apparaîtront le patriarche Enoch et le prophète Élie, qui sont toujours en vie quelque part et qui viendront. Ils vont prêcher courageusement contre l'Antichrist pour consoler les derniers élus, mais ils seront mis à mort. Ensuite, il y aura des catastrophes naturelles de tout genre sur la terre. Alors, il s'agit de phénomènes que nous connaissons déjà, des tremblements de terre, des orages, des raz-de-marée, etc. Mais ces phénomènes se produiront avec une intensité extraordinaire, jamais vue depuis le déluge de Noé. Et il y aura des bouleversements dans le ciel, des changements impressionnants dans le cours des astres. Et ensuite, à la fin, la conflagration universelle, c'est-à-dire que l'univers sera consumé par le feu. Comme au temps du déluge, tout ce qui a été souillé par les péchés des hommes doit être purifié. Donc tous les lieux sur la terre entière en fait, entière, qui a été le théâtre des péchés et des crimes des hommes, doit être purifié. Sauf que cette fois-ci, ce sera dans le feu et non pas dans l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura la résurrection des corps de tous les hommes. Les corps sortiront des cendres afin de rejoindre leurs âmes pour être jugés. Et ces corps seront les mêmes que nous aurons eus pendant notre vie. Alors, est-ce que cela veut dire que ça sera exactement la même matière, la même substance que nous avons dans nos corps maintenant? En fait, partiellement. Parce que de même que pendant notre vie, notre corps ne conserve pas toujours entièrement, exactement la même matière, les mêmes molécules au cours des années. Donc, notre corps, quand nous étions un petit bébé, avait une grande partie de notre matière que ce que nous avons maintenant dans notre corps. Et de même, à la résurrection, il suffira que l'âme récupère au moins une partie du corps qu'on a eu pendant cette vie pour que ce corps soit considéré comme le même. Et de toute façon, ce corps, ce nouveau corps, sera identique par sa forme et par son apparence. Car c'est justement l'âme qui donne, qui est la forme de notre corps. Et donc, du fait même que, que l'âme reprenne cette matière, il sera identique et avec la même forme. Et en même temps que la résurrection des corps, la terre elle-même ressuscitera en quelque sorte et sera complètement renouvelée. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Par contre, le feu qui aura tout brûlé continuera de brûler les corps des damnés ressuscités, sans pourtant les consumer. Et c'est, voilà, on arrive au jugement général. C'est maintenant que le souverain juge va descendre du ciel, accompagné de toute la cour céleste, pour rendre sa sentence. Il sera précédé du signe du Fils de l'homme dans les airs, c'est-à-dire une grande croix qui sera visible pour tous. Ce signe d'ignominie sera transformé en signe de gloire. Il viendra glorieux, mais dans cette forme humaine qu'il a prise pour nous sauver et qui a été injustement jugée par les impies. Donc les méchants ne verront pas sa divinité. Sinon, ils seraient automatiquement rendus heureux et ils seraient plus des damnés. Ils vont juste voir Jésus dans son humanité. Et Jésus sera assis sur une nuée éclatante, accompagné de la Sainte Vierge, de Saint Joseph et des 12 apôtres. Alors commencera le jugement public de tous les actes, toutes les paroles, toutes les pensées, même les plus secrètes, et de toutes les omissions de tous les hommes. Dieu révélera à chacun tous ses péchés et tous ses actes vertueux, en même temps que tous les péchés et tous les actes vertueux de tous les autres hommes. Alors, il y a deux questions qui peuvent se poser. D'abord, alors, ça va prendre un temps inimaginable. Si chaque homme doit voir tout ce qu'a fait tous les hommes depuis le début du monde. Bon, ça reste mystérieux, mais sans doute, le bon Dieu fera en sorte que chaque homme ait une espèce de vision intellectuelle où il comprendra dans un instant tout cela. La deuxième question, est-ce que même les péchés des bons et des saints seront révélés, ne serait-ce pas honteux pour les saints? Eh bien non, justement ça sera une source de gloire pour les bons. Parce que tout le monde verra que malgré leurs péchés, ils ont eu confiance en la miséricorde de Dieu. Et ils se sont réconciliés avec Dieu avant leur mort. Ce sera une source de honte plutôt pour les damnés. Parce que les damnés vont voir que d'autres hommes auront fait autant et peut-être pire qu'eux en matière de péché et qui sont pourtant sauvés parce qu'ils ont eu l'humilité de demander pardon à Dieu. Alors une autre objection un peu plus difficile, n'est-ce pas superflu d'avoir ce jugement public? Parce que à la mort de chaque homme, on est jugé. L'âme est jugée au moment de la mort, en quittant son corps. Mais justement, l'âme est jugée en laissant son corps derrière elle. Le corps n'a pas été jugé à ce moment. Mais notre personne est constituée d'une âme et d'un corps. Notre corps, en tant qu'instrument de notre âme, a participé à tous nos péchés et à tous nos actes de vertu. Notre corps doit donc être jugé pour ensuite participer à la récompense du ciel ou au châtiment de l'enfer. De même, quand notre âme aura été jugée à l'heure de notre mort, il n'y aura pas eu d'autres témoins. Mais il faut un jugement public en présence de témoins, parce que l'homme est social par nature. Il ne vit qu'en société, et ses actions ont toujours une influence sur les autres. Donc, il faut une enquête rigoureuse sur toutes les conséquences de nos actions et leur influence sur les autres hommes. Cela permet de rétablir la vérité dans l'opinion publique. Ainsi, les hommes auront à répondre à la justice divine devant les autres hommes qu'ils auront entraînés au péché, et puis les bons seront mis à l'honneur après avoir été tournés en dérision pendant leur vie. Et cela montrera la sagesse de Dieu dans son gouvernement du monde, qui ne laisse aucun péché impuni. Et ça montrera aussi surtout le bien fondé de la sentence qu'il va prononcer. Parce que tout le monde va voir les uns aller en enfer, les autres aller au ciel. Il faut quand même bien savoir la raison. Puis même, le fait qu'il y ait un jugement général plus tard, ça nous aide dès cette vie. C'est une consolation pour les bons à penser toutes les fois que nous avons été injustement jugés par les autres ou punis, bah, ça va être rétabli devant tout le monde, notre réputation. Puis ça donne une crainte salutaire pour nous tous, pour éviter le péché, pour ne pas avoir cette honte le jour du jugement. Alors après le jugement, c'est la séparation finale et définitive. Une fois que la justice sera rétablie publiquement et solennellement devant tous, Jésus prononcera son jugement. La sentence sera consolante pour les bons. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé. Mais elle sera terrible et terrifiante pour les méchants. Retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Alors, en conclusion, disons un petit mot sur la Sainte Vierge. Jésus est venu en ce monde une première fois par la très sainte Vierge Marie. Et il viendra une deuxième fois, et cette venue sera préparée par la très sainte Vierge Marie. C'est la pensée de Saint-Louis-Marie Guignon de Montfort. Il dit que la deuxième venue de Jésus sera préparée par une manifestation de plus en plus explicite des gloires et de la puissance de la très sainte Vierge Marie. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que Saint-Louis-Marie Guignon de Montfort disait cela juste au moment des apparitions de la très sainte Vierge Marie à la sœur Benoîte au Lot, dans les montagnes, près des Gap. Et ces apparitions ont justement inauguré les temps modernes avec les grandes apparitions de la très sainte Vierge Marie. Ces interventions de la Sainte Vierge dans le cours des événements du monde. Donc la rue du Bac, après, La Salette, Lourdes, Pontmain, Fatima, l'île Bouchard. Donc confions-nous à la très sainte Vierge Marie, qu'elle nous aide à nous préparer nous-mêmes à ce jour terrible, en pratiquant la vertu et en évitant le péché. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.